Mesdames, Messieurs, nous sommes une nouvelle fois enchantés de vous accueillir pour ce nouveau Café des idées au Café des Champs Libres. Ce soir, nous accueillons Anna Quéré et Julie Léonard de Bretagne Culture Diversité pour échanger ensemble autour du patrimoine vivant qu'est le patrimoine culturel immatériel. Et peut-être que pour certains, ce sera une prise de connaissance de ce qu'est le patrimoine culturel immatériel. Mais l'idée de cet échange, de cette rencontre ce soir, c'est de vous montrer aussi les dessous, c'est-à-dire comment on mène l'enquête pour finalement définir, reconnaître un patrimoine culturel immatériel, un patrimoine vivant. Petit rappel, je l'ai dit, Anna et Julie viennent de Bretagne Culture Diversité. Donc, cette rencontre est menée en partenariat avec BCD, que je vous invite à découvrir dans leurs multiples actions. Voilà, je leur laisse la parole. Petit détail ici, dernier. N'hésitez pas, Hélène Anvers ainsi que moi-même, au cours de la rencontre, nous aurons les micros, puisque l'idée du Café des idées, c'est que l'échange se soit entre les intervenants et la salle. Donc, vous pourrez nous repérer pour intervenir.
Merci, Manuel. Je rappellerai les petites règles du jeu pour ce soir, tout à l'heure. Eh ben, merci à vous d'être là ce soir avec nous pour parler d'un terme un peu jargonneux, on dirait patrimoine culturel immatériel. Même moi, quand j'en avais entendu parler, mais Julie a dû me réexpliquer quand je suis arrivée à BCD il y a 2 ans. Donc, c'est un peu ce qu'on va découvrir avec Julie. Toi, tu es ethnologue et responsable des inventaires du PCI au sein de BCD depuis 11 ans. Et puis, BCD, finalement, donc BCD, c'est Bretagne Culture Diversité, on est à Lorient. Et c'est une association qui est née dans le prolongement de la démarche qui avait été portée pour inscrire le fest-noz à l'UNESCO. On va donc revenir sur cette histoire, mais pas seulement. On va également essayer de commenter, de comprendre, de définir, de décrire d'autres formes de patrimoine culturel immatériel en Bretagne et ailleurs. Alors, en fait, ici, on n'est pas dans une conférence. Julie ne va pas nous développer un argumentaire sur le PCI pendant une heure. On est vraiment dans un esprit d'échange. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va mener cet entretien, mais je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à poser des questions à Julie tout au long en fait, de la rencontre. Alors, je vois qu'il y a déjà une personne qui est très motivée. Et en fait, il y a aussi la possibilité pour des gens qui n'auraient pas forcément envie de prendre la parole et d'être, de prendre le micro. En fait, je me rends compte que vous m'entendez mieux, que vraiment, je suis vraiment très près. Hein, c'est mieux. OK. C'était juste le temps de m'habituer. Vous pouvez également prendre un petit papier, écrire votre question. Et Manuel ou Hélène, qui sont ici dans la salle, peuvent prendre le papier et poser la question à votre place, si vous le préférez. Donc vraiment, tout est très ouvert. N'hésitez pas à la fois à témoigner ou à poser une question, à donner votre avis. Il n'y a pas de problème. La seule chose que je vous demande, c'est de pas trop, d'être un peu concis et concise, et donc de ne pas trop développer. Plutôt d'accepter. C'est moi un petit peu la maîtresse du temps, donc je me permettrai de vous couper si je trouve que c'est un peu long, mais par ailleurs, vous pouvez vraiment intervenir sans problème tout au long de cette rencontre. Voilà. On a commencé. En fait, on avait choisi une photo d'une enquête et peut-être que cette photo vous a un peu interrogé parce qu'on se demande bien où est Julie. Alors Julie, tu vas peut-être nous dire exactement où tu te trouvais ce jour-là.
Oui. Alors, c'est vrai que moi, quand je vois cette photo, j'ai un souvenir de froid, puisqu'on était durant l'hiver 2021-2022. Et donc, on est dans une caravane, puisque nous sommes en train donc de réaliser, comme vous le voyez, une interview filmée avec une des bénévoles du Festival Ficelle. Donc, il y a un festival qui s'organise à Rostronin. Et dans le cadre des 50 ans, en fait, on a fait tout un travail de documentation et de collectage avec les bénévoles pour raconter un peu l'histoire de ce festival. Et alors, pourquoi on était dans une caravane ? Eh bien, parce que, vous le voyez sur la photo de droite, le festival propose aussi des concerts dans les caravanes. Et du coup, on s'était dit que c'était l'occasion de, pour les interviews, garder l'ambiance de ces caravanes qui sont au festival. Et donc, Liloé Emer, qui est... qui est de dos. Elle faisait les entretiens en breton et moi en français. Mais voilà, un souvenir de froid de cette photo.
Un souvenir de...
De grand froid. On avait un tout petit poêle au fuel à l'ancienne qu'on devait recharger toutes les heures. C'était une expérience.
On verra tout à l'heure d'ailleurs que dans d'autres enquêtes, parfois tu dois te lever tôt.
Toujours.
Voilà. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on doit faire quand on est un peu une enquêtrice. Voilà, comme tu l'es. Alors, peut-être que justement, je disais que le patrimoine culturel immatériel, ça nous paraît un peu comme ça apparaît un peu comme un jargon, parfois un peu difficilement compréhensible. On se demandait, pour commencer, est-ce que vous aviez envie de nous dire, vous, dans le public, ce que vous saviez de ce qu'est peut-être, de ce qui relèverait du patrimoine culturel immatériel autour de vous ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que quelqu'un veut proposer quelque chose ?
Ah, le savoir-faire de la crêpe ou de la galette, tout à fait, rentre dans ce qu'on appelle le patrimoine vivant, oui.
Est-ce qu'il y a d'autres idées ?
La nourriture marche toujours très bien pour lancer le sujet.
J'ai vu que c'était la Jordanie purée. Voilà.
Mais tant mieux, c'est que ça circule et que finalement on retient les bonnes choses.
L'origine, c'est ça.
Est-ce que quelqu'un veut juste proposer un autre exemple ?
Pardon. On peut imaginer que c'est peut-être tout ce qui est immatériel, donc tout ce qui est autour de l'oralité, des danses, des choses comme ça. C'est-à-dire, ce qui n'est pas du patrimoine physique ou immeuble ou meuble, des choses comme ça. Quoi.
Tout à fait. Effectivement, vous avez tout ce qu'on... Alors, l'UNESCO parle d'expression orale, donc tout ce qui va être conte, chant, légende. Vous avez aussi les danses traditionnelles, effectivement. Par contre, c'est intéressant de voir qu'il y a toujours des éléments matériels en lien avec le patrimoine immatériel. Vous avez les instruments de musique, on parlait du savoir-faire de la crêpe, des crêpes ou des galettes, bah vous avez les instruments pour les faire. Donc il y a toujours un appui matériel pour le dire comme ça. Ouais. Mais sinon, oui, complètement. La vaisselle, c'est-à-dire...
Par exemple, pour nous, vous savez, la vaisselle Henriot là, à Quimper, ouais. Ça fait partie de ça ou c'est simplement de la vaisselle ?
Alors...
La faïence, oui.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qui nous intéresse dans le patrimoine vivant, c'est jamais l'objet en tant que tel ou le produit, mais c'est toujours le savoir-faire. Donc là, ce qui va nous intéresser, dans votre exemple, effectivement, c'est le savoir-faire de la faïencerie qui peut rentrer dans ce qui fait patrimoine immatériel. Ouais.
Peut-être qu'on pourrait faire un petit quiz et s'amuser en regardant quelques images, en essayant de deviner si justement, est-ce que c'est du PCI, donc du patrimoine culturel immatériel, ou pas. Alors, par exemple... La maison à pans de bois, celle par exemple là de Lamballe, est-ce qu'à votre avis c'est du patrimoine culturel immatériel ?
Ah, ça fait non. Hein, je vois les têtes qui...
Ça marche, ça marche pas ?
Effectivement, là on est
Alors,
sur
pourquoi ?
Du patrimoine
pourquoi ?
Architectural, donc c'est le bâtiment qui est valorisé. Et puis, donc on est voilà, vraiment sur patrimoine architectural pardon, valorisé.
Alors, il y a une autre photo, là, les marais salants, notamment ben, de Saint-Suliac. Là. À votre avis, est-ce que c'est du patrimoine culturel immatériel ?
Ah, là, il y a du oui, il y a du non. Un.
Alors, oui ou non ?
Donc c'est palpable, mais il y a évidemment tous les savoir-faire, j'imagine, autour la transmission des savoir-faire autour du jardinage ou de l'entretien de ces paysages, etc. Quoi.
Exactement. Alors il y a le piège. On a mis ensuite que c'est pas du patrimoine immatériel parce que les marais salants en tant que tels sont un espace naturel, parfois protégé, donc ils peuvent relever du patrimoine naturel. Par contre, tous les savoir-faire des paludiers et autres, là, on est sur du patrimoine vivant.
Alors, les pardons et les troménies ?
Ah, là, c'est unanime. Hein. Là, quand même, je sens que...
La prof a dit que oui, on ne s'est pas trompé.
Et oui, tout à fait. Donc, un petit mot, ça va commencer à nous mettre dans l'ambiance de la définition du patrimoine immatériel. Les religions en tant que telles ne sont pas du patrimoine immatériel. Par contre, toutes les pratiques religieuses, alors le pardon, c'est une pratique culturelle et culturelle, parce qu'il y a aussi une grosse dimension festive. Et c'est très vivant en Bretagne, puisqu'il y en a à peu près 1900 d'encore organisés chaque année et qui maillent l'ensemble des départements de la Bretagne. Donc c'est vraiment quelque chose encore de très vivant et très important pour plein de monde.
Alors justement, peut-être que tu pourrais essayer de nous décrire l'une après l'autre ce qui permet, en fait, des éléments qui permettent de classer ce patrimoine culturel immatériel.
Alors le premier élément, c'est que c'est un patrimoine vivant. Alors qu'est-ce qu'on entend par vivant ? C'est là tout l'intérêt du terme, c'est que c'est encore pratiqué aujourd'hui. Et encore pratiqué aujourd'hui et vécu au quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout, dans une logique de reconstitution, de quelque chose qui n'existerait plus, mais c'est vraiment, voilà, on va au fest-noz, on en parlait tout à l'heure, on va au pardon, on fait nos crêpes et nos galettes chez nous, on les mange, on danse, on chante. Donc c'est vraiment vivant, c'est-à-dire qu'il y a encore une dimension contemporaine et complètement vécue au quotidien. Comme beaucoup de patrimoine, évidemment, l'enjeu, c'est que ça se transmette, donc de génération en génération. Et ce qui est intéressant avec le patrimoine vivant, c'est que ça n'a pas forcément besoin d'être très ancien. L'UNESCO parle de 2-3 générations. Donc, par exemple, le fest-noz, dont on parlera tout à l'heure, il date des années 50. Donc, finalement, à l'échelle du temps, c'est assez récent, le fest-noz moderne. Mais ça, c'est pas du tout un critère. C'est pas grave. C'est au contraire. Tant que, voilà, il y a 2-3 générations où il y a eu un processus de transmission, on est sur du patrimoine immatériel.
Mais c'est pas forcément une transmission par l'école, parce que là c'est un prof de musique, mais ça peut être d'une autre façon, j'imagine.
Complètement, ça peut être transmission formelle, informelle. On peut apprendre, voilà, dans sa cuisine, pour garder l'exemple, à faire des crêpes ou des galettes. On peut apprendre à danser comme ça. On va au fest-noz, on sait pas danser, on apprend sur le tas. Et donc il y a vraiment plusieurs formes d'apprentissage, ouais. Qui se recrée en permanence.
Est-ce que vous vous souvenez de l'aquagavotte, justement, à la piscine de Carhaix ? Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Peut-être que tu peux en dire un mot.
Oui, là, on est en plein dans la création contemporaine, où un jour, une bande de joyeux s'est dit, on va faire un fest-day dans la piscine. Et donc ils ont dansé dans la piscine municipale de Carhaix. Donc on voit bien que l'enjeu, c'est que ça évolue, ça s'adapte, ça peut changer les instruments, les manières de faire. C'est pas du tout un souci. Il faut surtout pas que ça reste figé, en fait.
Je crois qu'il y a une question à ce sujet.
Oui. Oui, merci. Je me demandais. Vous disiez qu'il fallait que ça soit encore en vie, que ça soit encore vivant.
Oui.
Mais par exemple, si on prend une tradition, moi que je connais les échassiers avant qui gardaient leurs moutons, aujourd'hui c'est moins le cas, mais il y a quand même des groupes folkloriques qui reprennent ces codes-là. Est-ce que ça, c'est du coup considéré comme du patrimoine immatériel ou non ?
Alors ça, c'est le grand débat avec les reconstitutions, justement, de pratiques qui sont... Alors, il n'y en a plus du tout au quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui travaille comme ça.
Je ne suis pas un spécialiste, mais je ne crois pas.
Moi non plus, mais du coup, ça serait déjà la première question à se demander. Et peut-être que c'est fragile et qu'il n'y en a pas beaucoup, mais qu'il y a encore un usage au quotidien. Et par contre, sur les reconstitutions, s'il n'y en a plus du tout, là, on est sur un autre registre, on est plus sur des démonstrations d'une époque, de ce qui se faisait à une époque. Par contre, des fois, les fêtes dans lesquelles ces reconstitutions ont lieu, elles peuvent être du patrimoine vivant. Donc c'est vraiment, en fait, à chaque fois, il faut se poser un peu toutes ces questions et voir comment ça fonctionne et surtout quel est le dynamisme derrière. Donc là, il faudrait qu'on mène l'enquête pour savoir est-ce qu'il y a encore des gens qui travaillent comme ça au quotidien. Ouais.
Alors on a dit qu'ils se recréent en permanence et
qui procurent un sentiment d'identité. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie de l'identité culturelle des personnes qui le vivent au quotidien. Ça participe à les définir et de continuité. Voilà, ça nous inscrit dans une continuité entre les générations d'avant, les générations d'après. Et c'est central, cette notion de... Alors l'UNESCO parle de communauté, de groupe social, appelons ça comme on veut, mais en tout cas des personnes pour qui c'est important. Et on va le voir, c'est aussi le premier élément. Ce qui relève du patrimoine vivant, c'est ce que justement les communautés vont considérer comme faisant partie de leur patrimoine vivant. Donc, c'est-à-dire que vous, si vous avez quelque chose, vous dites, bah, ça, c'est mon patrimoine vivant, eh ben, c'est du patrimoine vivant et ce n'est pas un expert qui va vous dire oui ou non. Et c'est pour ça que c'est, ça inverse un peu la manière de faire où ce qui compte, finalement, c'est ce que les gens vivent et ce que les gens définissent comme appartenant à leur patrimoine.
Alors justement, tout à l'heure, vous parliez de l'exemple des échassiers dont on ne sait pas si cette pratique perdure encore aujourd'hui. Il y a effectivement des domaines qui ne relèvent pas du patrimoine culturel immatériel.
Alors oui, on n'a pas la réponse pour votre exemple, mais là, par exemple, donc les anciens métiers, ce qu'on appelle généralement les anciens ou les vieux métiers, qui ne sont plus du tout pratiqués aujourd'hui, ne relèvent pas du patrimoine immatériel parce qu'ils ne sont pas vivants au sens pratiqué au quotidien. Donc ça appartient à la mémoire, on a toute une documentation dessus, mais c'est une autre catégorie de rapport à notre héritage.
Et idem aussi sur le côté finalement matériel du patrimoine.
On confond souvent quand on entend immatériel, on se dit ah bah tiens, donc les archives numérisées, donc ça c'est du patrimoine immatériel. Et en fait non, en général c'est un support de conservation, mais les archives en tant que telles ne sont pas du patrimoine immatériel. Par contre, vous pouvez avoir des archives sur des éléments qui, eux, relèvent du patrimoine immatériel. Des archives sur le fest-noz, sur des gens qui tournent des crêpes et des galettes dans les années 70, etc. etc. Mais le support, l'archive, n'est pas du patrimoine immatériel, numérisation, dématérialisation et autres. Oui.
Alors, en ce qui concerne la langue bretonne, où, ça rentre quand même dans le cadre du patrimoine immatériel, puisque même si il y a de moins en moins de gens à parler et à finalement transmettre la langue, en fait, on peut quand même considérer que voilà, c'est considéré comme un...
Oui, alors il y a plein de choses dans votre question, donc c'est bien, ça me permet de... déjà, le nombre de personnes, il n'y a pas de minimum. Par exemple, la France a inscrit le savoir-faire des dentelières d'Alençon. Elles étaient 9 à détenir le savoir-faire au moment de la candidature. Donc depuis, ça a été redynamisé. Donc on peut être finalement 3. Alors évidemment, c'est mieux d'être au moins 2, histoire que ça soit un patrimoine collectif. Mais il n'y a pas de minimum. Donc finalement, le nombre de locuteurs bretons ou même du gallo, ce n'est pas du tout un critère. Par contre, sur la langue, vous n'êtes pas sans savoir que les questions sur les langues sont très sensibles, très politiques. Et donc l'UNESCO a, pour des raisons de consensus au niveau international entre tous les pays qui la composent, a considéré les langues régionales, minoritaires, etc., comme des vecteurs du patrimoine immatériel, mais pas comme des éléments en tant que tel de ce patrimoine immatériel. Donc le breton ne pourra jamais être inscrit en tant qu'élément du patrimoine immatériel. Par contre, des chants en breton peuvent être inscrits en tant que patrimoine immatériel. Après, il y a des positionnements en France, dans les régions, où il y a des associations qui considèrent que la langue est un patrimoine immatériel aussi. C'est-à-dire qu'il y a un petit décalage par rapport à ce que l'UNESCO a défini au niveau international.
Non. Fait qu'on peut remettre en cause finalement la... à partir du moment où en fait c'est pas inscrit au patrimoine, on considère qu'il peut y avoir une remise en cause.
Une remise en cause de.
Par exemple de la langue en elle-même, vous voyez. Puisque la langue bretonne, elle a quand même connu des hauts et des bas.
Oui.
Et surtout, bon, là ça repart un peu, mais on a connu des bas. Et en fait, on voit très bien que si on n'inscrit pas au patrimoine, en fait, on ne peut pas lui assurer une pérennité comme pour le patrimoine immatériel. Ouais, ou matériel,
alors,
vous voyez.
Ouais. Alors l'UNESCO, pour, effectivement, parce qu'elle travaille aussi sur les langues, et notamment les langues menacées, elle a créé, donc c'est un autre service en fait, qui s'occupe de ça. Et il y a tout ce qu'on appelle l'atlas des langues en danger, où les langues sont répertoriées en fonction de leur vitalité. Et le breton, le gallo et autres langues régionales sont repris dans cet atlas. Et là, il y a des choses menées. Mais ce n'est pas le même service, entre guillemets, et ce n'est pas la même convention et autres. Donc, ce n'est pas du tout un jugement de dire qu'il ne faut rien faire, les langues, ce n'est pas vraiment du patrimoine. C'est juste que, pour des raisons de consensus, ils ont fait un autre dispositif, quoi.
D'ailleurs, sur cet atlas de l'UNESCO, on peut écouter plein de langues du monde. Enfin, je vous invite à aller regarder parce que c'est vraiment passionnant. Vous avez peut-être une question en plus ?
C'est parce qu'on parle d'inscription, mais on parle d'inscription à quoi ? Parce qu'on parle de l'UNESCO. Est-ce qu'il y a peut-être des inscriptions
oui,
au niveau national ?
Vous... Ouais.
L'UNESCO, à quoi ça correspond ? Et pourquoi l'UNESCO ? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres inscriptions ailleurs à des échelles plus locales ou nationales ?
Tu veux répondre maintenant ou peut-être après ?
Ça va enchaîner. Voilà, en fait, effectivement, on parlait au niveau de l'UNESCO, puisque la convention qui régit le patrimoine vivant, donc c'est la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, donc qui a été adoptée en 2003 et ratifiée en 2006, notamment par la France. Donc en France, c'est un cadre qui existe depuis 2006. Et donc ça, c'est une forme d'inscription, les candidatures UNESCO qu'on peut entendre. Mais il y a aussi au niveau national un inventaire sur lesquels vous pouvez inscrire des pratiques. Voilà, s'il y a une communauté qui se mobilise et qui trouve que pour elle, c'est important, eh bien, il y a cet inventaire national. Et après, on n'est même pas obligé d'être dans une logique d'inscription sur l'inventaire national ou à l'UNESCO. On peut aussi avoir mettre en place des projets, des mesures de sauvegarde, puisqu'on parle de sauvegarde en matière de patrimoine vivant, pour assurer la transmission de ce patrimoine. Mais effectivement, on n'est pas du tout obligé d'être dans une logique d'inscription à l'UNESCO ou à l'inventaire.
D'ailleurs, tout à l'heure, on y reviendra, mais l'enquête que tu mènes en ce moment, elle n'est justement pas pour l'inscription à l'UNESCO.
Non.
Mais je ne peux pas vous en dire plus. Oui ?
Déjà, merci pour le format que vous donnez à votre intervention, très ouvert et interactif. C'est vraiment agréable. Et une petite question. Merci aussi pour les précisions que vous avez pu donner sur les nuances, la complexité. Et moi, il y a un terme un peu générique qui me questionne. C'est ce qu'on appelle ou qu'on appelait le folklore. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire autour de ce mot-là ? Enfin, folklore au sens immatériel, pas dire ce qu'on a évoqué, les danses, les chants, les contes, etc. Est-ce que c'est le fait ? Enfin, je vous laisse répondre parce que j'ai ma petite idée, mais je préfère vous entendre.
Alors, au niveau international, dans les autres pays, le terme de folklore ne pose pas du tout problème. En fait, c'est un terme qu'ils utilisent. Ils parlent de folklore vivant, de patrimoine vivant, patrimoine immatériel. Tout ça est un peu similaire. En France, on sait qu'on a une histoire un peu plus délicate avec le terme de folklore, qui est même un terme péjoratif aujourd'hui. Hein, en général, il faut le dire, quand on parle de folklore ou de folklorisation, c'est
façon de se moquer
toujours,
parfois ou pas toujours très...
Oui. Et ça s'inscrit complètement dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et donc de l'instrumentalisation justement de ces cultures régionales par le gouvernement de Vichy. Tout à fait, ouais. Mais au niveau international, à l'UNESCO, ils parlent de folklore. Mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu prendre ce terme en fait, pour le patrimoine immatériel, parce qu'il ne fait pas consensus, notamment au niveau de la France, et qui était un des pays très actifs pour cette ratification de la Convention. Ouais.
Vous aviez une autre question, je crois.
Oui. Et est-ce que les croyances entrent là-dedans ? Moi, je connais dans mon Finistère Sud, je connais une petite fontaine où les gens du coin viennent jeter les sous. Il faut absolument que le sou aille dans un endroit, endroit carré. Et là, on gagne de la santé pour tout ce qu'on aime. Et puis, dans le même cas, tout près, il y a aussi une petite chapelle avec une Vierge Marie dont il faut toucher le bras. Et elle est extraordinaire, cette Vierge Marie, parce qu'elle peut amener le bien, mais elle peut aussi, au rêve, amener le mal sur nos ennemis. Est-ce que ces croyances-là font partie du patrimoine,
Oui, complètement.
Oui, toutes ces croyances.
C'est ce que je disais. Les religions en tant que telles, non. Mais par contre, toutes les... Il me gêne ce truc. Ouais. Toutes les croyances... Donc là, vous évoquiez les fontaines aveux, mais on a aussi les fontaines guérisseuses. On va chercher l'eau de cette fontaine-là pour se guérir. Il y a les arbres à loques. Alors en Bretagne, il y en a quelques-uns, dans la région de l'Ille-et-Vilaine et autres. Il y en a beaucoup aussi dans le nord de la France, où on vient mettre un bout de tissu, un vêtement qui appartient à la personne malade pour la soigner. Toutes ces croyances-là, elles peuvent faire partie aussi du patrimoine immatériel.
Et justement, peut-être pour un petit peu conclure cette histoire de définition, est-ce que tu peux nous commenter un petit peu, on disait qu'en Bretagne, justement, des pratiques ont été... répertorié.
Alors là, on a mis quelques exemples avec Anna, mais il y en a évidemment plein d'autres. Mais donc sur ces fameuses expressions orales, donc on a pris l'exemple d'un repas chanté en breton pour justement cette question de la langue, de montrer que la langue est vecteur et qu'il y a le chant, c'est un moment collectif où voilà, il y a de la transmission. Le second domaine qu'on voit, ce sont les arts du spectacle. Donc les cercles celtiques sont un bon exemple, à la différence du fest-noz, où là, vous allez plus être dans une position de spectateur, mais vous n'allez pas forcément danser, monter sur scène avec le cercle. Donc on est dans une logique d'art du spectacle. Ensuite, on a tout ce qu'on appelle les pratiques sociales. Alors, c'est assez pratique, hein. Chaque société a des pratiques sociales par définition. Et là, en matière de patrimoine immatériel, on évoquait les savoir-faire liés à la crêpe, aux galettes. Donc, on voit un exemple. Mais on a aussi tout ce qui relève des jeux et sports traditionnels. Donc là, le gouren, donc qui est la lutte traditionnelle bretonne, qui relève aussi du patrimoine immatériel. Le fesnoz, dont on reparlera après. Et puis, il y a aussi un domaine où nous, peut-être culturellement, on est moins familier, moins habitué, mais tout ce qui va concerner les connaissances et savoir-faire liés à la nature et à l'univers. Donc tout ce qui va être pharmacopée, se soigner avec les plantes, mais également tout ce qui va être les rituels de saison, l'arbre de mai à l'Ocronan, voilà des exemples comme ça en Bretagne. Et des choses qu'on a moins sur ce domaine-là, c'est tout ce qui va être les cosmogonies, donc les rapports à l'univers, où là on retrouve ça plus dans des cultures d'Amérique latine, par exemple, où il y a beaucoup de systèmes de cosmogonies. Nous, on n'a pas ce rapport-là à l'univers, la Pachamama, peut-être c'est des choses dont vous avez déjà entendu parler, mais en tout cas, on va avoir tout ce qui est ethnobotanique, pharmacopée et autres, ouais.
Alors justement, pour identifier en fait ces éléments du patrimoine culturel immatériel, il faut aller enquêter. Et toi, Julie, tu mènes la réalisation d'inventaires du patrimoine culturel immatériel. Alors avant de parler exactement de ce que tu es en train de... le terrain sur lequel tu travailles aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire finalement c'est quoi un inventaire?
L'inventaire, c'est un peu notre outil. Notre méthode de travail justement pour mener l'enquête, pour savoir cette pratique-là, comment elle s'organise, par exemple pourquoi les gens vont à la fontaine, qu'est-ce qu'ils y font, quelles sont les croyances derrière, et puis est-ce qu'elle est encore dynamique, est-ce qu'elle est encore pratiquée au quotidien. Donc on va vraiment avoir cet outil-là où on va faire plusieurs choses, on détaillera après. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que cet inventaire, c'est pas une fin en soi. C'est vraiment un outil pour amorcer une réflexion et pour essayer de mettre en place des choses pour participer à la transmission et à la sauvegarde de ces éléments-là. Donc, et les inventaires, et c'est ça qui est important, c'est que c'est jamais moi qui vais décider sur quoi je travaille, mais je suis toujours sollicitée par des collectivités ou des communautés qui me disent nous, on aimerait bien travailler là-dessus, on aimerait bien avoir une reconnaissance en tant que patrimoine vivant. Est-ce que vous pouvez nous accompagner? Est-ce que vous pouvez nous aider à travailler là-dessus?
Alors justement, moi j'ai une question, parce que là c'est important. Est-ce que vous aimez manger des craquelins? Avec quoi? De la confiture, du beurre, avec du beurre. Est-ce que tout le monde mange des craquelins ici?
Est-ce que tout le monde connaît les craquelins?
Ouais. Alors justement, Julie, en ce moment, depuis un an à peu près,
un an et demi,
tu travailles sur le savoir-faire, sur l'inventaire des savoir-faire et de la culture du craquelin, donc qui se situe dans la vallée de la Rance jusqu'à Saint-Malo. Alors finalement, c'est eux là cette fois-ci qui sont allés vers toi pour comment ça s'est passé?
En fait, donc peut-être vous ne le savez pas, mais on a une communauté de craqueliniers, donc ils sont 5 fabricants encore en activité aujourd'hui, et la production mondiale de craquelins est située sur la vallée de la Rance, Saint-Malo, Fréhel. Voilà, donc vraiment. Et donc il y a un double contexte avec ce dossier. C'est que peut-être vous avez entendu parler qu'il y a un projet de futur parc naturel régional Vallée de la Rance Côte d'Emeraude. Et en fait donc le parc, dans le cadre de sa candidature, a mobilisé les différents acteurs qu'il y a sur son territoire et notamment les acteurs économiques. Et parmi ces acteurs économiques, on a les craqueliniers, donc les fabricants de craquelins. Et ils se sont dit. Mais en fait, nous, on a un savoir-faire qui est en train de se perdre, parce que je disais, il en reste 5 aujourd'hui. La seconde moitié du XXe siècle, il y en avait encore une centaine en activité. Donc, on voit une chute drastique de la pratique. Et se sont dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour ce savoir-faire, sinon il va se perdre. Et ils ont voulu aussi rajouter la dimension de la culture du craquelin, justement pour les personnes qui ne les fabriquent pas, mais qui les mangent avec du beurre, de la confiture et autres gourmandises. Et donc, en fait, c'est la communauté des fabricants de craquelins et le parc naturel régional qui a sollicité Bretagne Culture Diversité en disant, on aimerait bien être accompagné, on aimerait bien mener l'enquête sur ce savoir-faire des craquelins.
Et alors, toi, au quotidien, comment ça se passe? J'ai peut-être été un peu vite.
Ah non, c'est bon. Ça. Oui, oui.
Parce que je me souviens qu'il y a des petits matins, on en parlait, et tu t'es élevé très, 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 très tôt.
Oui. Bah, les craqueliniers, c'est un peu comme les boulangers. Hein. Ils commencent très tôt. Y en a un d'entre eux, d'ailleurs, c'est un ancien boulanger. Donc, quand il m'a dit « je commence à 3h30 du matin », je me suis dit je vais peut-être arriver un peu en retard. Mais donc, du coup, bah, en fait, on mène l'enquête. Et pour mener l'enquête en ethnologie, bah, on va sur le terrain, en fait. Il faut qu'on expérimente par les gestes. Il faut qu'on documente les gestes qui sont faits. Il faut qu'on observe les étapes. Vous imaginez, le craquelin, il y a à peu près une dizaine d'étapes de fabrication. Parce que c'est une cuisson, dans un premier temps, dans l'eau chaude, puisque c'est la famille des échaudés. En général, on connaît mieux les bretzels aussi. Enfin, voilà, c'est toute cette famille des échaudés. Et donc, il y a toute cette étape de fabrication. Quels matériels ils utilisent, quelles matières premières, quels outils, etc. Et donc là, on est au petit craquelin de Fréhel, donc à Fréhel, où j'ai rejoint Martine Huet, et donc qui, vous voyez ses mains en plein travail, qui est en train donc de faire les craquelins. Et les craquelins, elle les fait un par un. Et donc, vous voyez, à la main, elle a un emporte-pièce, et donc, voilà, donc c'est très lourd. Martine a une poigne très dynamique, parce que tous les jours, elle fait à peu près 6000 craquelins comme ça, qu'elle va manipuler, donc elle est toute seule. Et donc, bah, en fait, je suis allée avec eux, je suis allée travailler avec eux, donc j'ai moi-même fabriqué des craquelins pendant une journée, vraiment de la fabrication de la pâte à la cuisson au four et ensuite le fait de les mettre dans les sachets pour la vente.
Tu prends des photos pendant, en même temps, tu fabriques, tu prends des photos.
Je fais des petites pauses. En fait, je commence à fabriquer avec eux pour voir un peu. Je vais prendre des photos, je vais discuter avec les salariés, parce que Martine, elle travaille toute seule, mais les autres ont aussi. Et donc, en fait, c'est vraiment documenter le savoir-faire, la profession, les problèmes. Parfois, on se retrouve même à parler d'ergonomie. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très varié et très, très large. Ouais.
Après, on ne fait pas que rester sur le terrain.
Et non, parce qu'en matière de craquelin et sur l'histoire du craquelin, en fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il n'y avait pas grand-chose en termes de travaux historiques, en termes de travaux universitaires. On a quelques articles. Il y a un article qui fait un peu date dans Armen, donc dans la revue Armen. Mais sinon, on n'a pas grand-chose. Il n'y a pas de musée, il n'y a pas d'espace muséographique. Donc, on doit faire ce travail-là. Et donc, on de fil en aiguille, on discute avec les gens. Allez voir un tel, je crois qu'il a des choses. Et donc là, vous voyez deux entretiens où je suis tombée sur des mines d'or d'informations. Où Yves, donc, qui est passionné depuis plus de 25 ans sur les craquelins et qui accumule comme ça énormément de documents. Vous voyez, il a retrouvé des photos de famille. Il a même travaillé à faire toute la généalogie des familles de craqueliniers sur Pleurtuis. Il est remonté de génération en génération. Donc, il a fait un travail énorme, mais qui est dans son ordinateur et qui n'est pas du tout valorisé. Et pareil pour Philippe. Vous voyez, il a un ancien emporte-pièce qu'on voit sur la droite de la photo. Et il a lui aussi plein de documents. Alors lui, en s'intéressant plus à la cuisson, au four. Pourquoi, si on met du sel, ça casse tout le processus de fabrication. Donc voilà. Et donc en fait, c'est vraiment là une enquête d'archives où on part à la recherche de ce que les gens ont chez eux, puisqu'il n'y a aucun espace. Alors on travaille aussi avec les musées qui ont quelques éléments aussi. Hein. Et donc voilà, c'est vraiment là, pour le coup, documenter toute cette pratique, toute son histoire. Parce que si c'est encore vivant aujourd'hui, ça a aussi toute une histoire qu'il faut essayer de reconstituer.
Mais en même temps, c'est vivant, mais ça ne t'a pas empêché, finalement, le fait que ce ne soit pas... Les craquelins, ce n'est pas forcément que artisanal, c'est aussi, il y a une partie industrielle, relativement industrialisée, donc peut-être
alors, effectivement,
c'est pas gênant forcément pour cet inventaire.
Alors non, parce que c'est pas une... Il y a toujours besoin d'une intervention humaine, en fait. C'est-à-dire qu'actuellement, on n'arrive pas... Ils n'arrivent pas à fabriquer une machine qui permettrait qu'il n'y ait plus du tout d'intervention humaine dans la fabrication des craquelins. Parce qu'il y a plein de contraintes que je ne vais pas lister là. Mais donc, du coup, on est dans de l'artisanal, du semi-industriel, mécanisé. Il y a toujours besoin de l'intervention.
Ouais, de gens. Ouais, c'est bien. Ouais. Vous aviez une question, je crois ?
Oui, moi, je me posais justement la question parce que vous êtes en train de dire que ça continue. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a que des vieux comme moi qui continuent à manger des craquelins. C'est bien. Je suis contente parce que le truc, c'est que, moi, mes grands-parents, ils étaient, ils étaient éleveurs de vaches et puis planteurs de tabac là, du côté de Combourg.
Ouais.
Et dans toutes les fermes, de Brouhaland et de Combourg, on mangeait des craquelins. C'était vraiment la friandise paysanne très connue. Alors que maintenant, je suis contente que ça continue. Mais je pense que c'est peut-être un peu en voie de disparition, justement parce que c'est la fabrication est artisanale, non ?
On s'est posé exactement la même question que vous.
Ça se développe, je plaisantais là, mais enfin, c'est vrai, hein. Mais ça se développe notamment grâce au tourisme. Les craquelins de Saint-Malo, ça grandit, hein, ça. Ne vous inquiétez pas, à Saint-Malo, oui.
Mais les autres aussi, on s'est posé exactement la même question que vous. Donc, en fait, on a fait une enquête sur ceux qui mangeaient des craquelins. Qui sont les gens qui mangent des craquelins? Quel âge ils ont? Comment ils sont retrouvés à manger des craquelins et autres? Et en fait, on se rend compte que... Alors, pour beaucoup, ça revient souvent, c'est une Madeleine de Proust. Là, c'est un terme qui revient très, très souvent dans les entretiens qu'on a pu faire. Mais non, il y a des jeunes aussi qui en consomment, notamment les petits à l'apéro. Qui ont été créés dans les années 90 et qui ont redynamisé un peu l'image du craquelin. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont transmettre ça à leurs petits-enfants. Les fabricants ont tous... Alors, ils ont un site internet, vente en ligne, et ils vendent un peu partout en France. Et les craquelins de Saint-Malo, qui sont les plus gros fabricants, commencent même à vendre en Europe. Donc, effectivement, il y a aussi un axe touristique, mais localement, pour avoir passé une journée dans leur boutique aussi, il y a du monde qui vient chercher ses craquelins et qui n'a pas forcément... il y a des jeunes, il y a de tout, en fait. Ouais. Et il y a aussi beaucoup de personnes pour des raisons de régime alimentaire, comme le craquelin, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de matière grasse, etc. Donc, ça, c'est une petite niche aussi, comme ça. Ouais. Donc, ça trouve... Et l'apéro. L'apéro marche beaucoup bien pour les petits craquelins.
Et justement, si on continue un peu dans ton enquête, tu élargis encore, tu vas encore au-delà de l'atelier de fabrication. Oui.
Ça fait écho à la question que vous posiez tout à l'heure sur le matériel. Et donc là, vous me voyez fièrement en photo avec donc Yves et un fils de craquelinière donc à Bourgneuf, à Pleurtuis. Et en fait, donc, vous voyez la porte, c'était l'ancienne boulangerie. Alors, il parlait de boulangerie alors qu'il ne fabriquait que des craquelins et le fameux four à craquelins. Et donc, dans le travail qu'on réalise, on s'intéresse aussi aux objets. Donc, on en a vu quelques-uns, mais aussi au four à craquelins. Il en reste très peu, mais il y en a encore. Et là aussi, c'est pareil, on a plein de questions et c'est... autant stimulant que frustrant. Est-ce que c'est la même logique de construction qu'un four à pain traditionnel? Est-ce qu'on peut faire des craquelins dans les fours à pain traditionnels? Donc là, on va lancer une expérimentation. Est-ce qu'il y avait une spécificité en fait, architecturale de ces fours pour les craquelins ou pas? Et donc, on est en train aussi vous voyez, de faire une carte. Donc là, c'est Yves qui est en photo tout à gauche, qui a fait cette carte des anciennes productions, mais là où il y a encore des traces de fours qui sont maintenant dans des propriétés privées, qui ne sont plus du tout dans une logique de vente ou de fabrication, et de voir un peu ce qu'il en reste. Quoi.
Mais alors justement, Julie, la question qu'on peut se poser, c'est aussi finalement, à quoi ça sert de faire ce type d'inventaire? À quoi va servir même celui-là sur les craquelins?
Alors déjà, il y a le premier élément qui, pour moi, est central. C'est, je pose fièrement avec Yves. Vous imaginez quand même un passionné pendant 25 ans qui a fait ça dans son coin, qui a embarqué sa femme pour retrouver tel endroit et autre. Et d'un coup, on vient frapper à sa porte et on lui dit « Mais en fait, ce que vous faites, ça nous intéresse. On a toute une démarche pour inscrire ça à l'inventaire national. » Donc, il y a une fierté, il y a une reconnaissance, même pour les gens... les fabricants de craquelins, les craqueliniers qui se disent « Ah, mais tiens, finalement, il y a cette reconnaissance patrimoniale. » Et ça, c'est vraiment... Enfin, c'est toujours l'élément, moi, je trouve, qui est indispensable. En fait, c'est le rôle social de ce patrimoine. Il est aussi là, il est aussi pour valoriser toutes ces personnes pour qui c'est important, pour qui ça fait partie de leur identité. Et puis après, y a aussi un travail de documentation. Là, en l'occurrence, il n'y avait rien de fait dessus. Mais l'enjeu, c'est que ça, c'est une première étape. Et après, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour accompagner la transmission de ce savoir-faire. Donc, j'évoquais, il y a tout un travail de muséographie à faire. Il y a tout un travail autour de la documentation. Mais on est aussi en train de réfléchir, parce qu'on est avec le parc naturel régional, sur les questions de développement durable avec cette pratique. Par exemple, les craquelins se vendent dans des sachets en plastique. aujourd'hui, c'est des choses voilà, sur lesquelles on va essayer d'accompagner avec le parc surtout en tant qu'acteur du développement durable, va essayer d'accompagner les craqueliniers pour mettre en place des sachets recyclables ou en matière non plastique et autres. Et donc voilà, ça va être par exemple, il y a plein d'autres idées, mais ce sont des choses comme ça aussi. Par contre, sur la transmission même du savoir-faire, là, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais.
Alors justement, c'est pour une inscription là à l'inventaire national du PCI, c'est ça ? Et c'est quoi la différence avec l'UNESCO alors ?
Eh ben, c'est que ça s'arrête à la France. Voilà. La reconnaissance en fait publique, politique, elle va s'arrêter au niveau de la France qui a mis en place un inventaire national. Et les craqueliniers n'ont pas forcément envie d'aller à l'UNESCO. Ils se disent déjà si on est reconnu au niveau national, nous on sera bien contents. Et puis l'UNESCO c'est peut-être un peu grand pour notre production mondiale de craquelins. Hein. C'est 5 personnes, plus le parc, plus alors après toute la communauté de passionnés et de gourmands. Mais donc eux c'est déjà voilà, être reconnu là-dessus.
Là, on parle des craquelins, mais tout ce qui concerne le travail de la pomme, par exemple, tout ce qui est en lien avec le cidre, le lambic, tout ça, c'est partie aussi du patrimoine. Donc, il pourrait y avoir aussi un inventaire en fait, un peu similaire qui
complètement. S'il y a une communauté, s'il y a des personnes qui se mobilisent en disant nous, on veut une reconnaissance, on veut être reconnu dans notre savoir-faire, ou on veut réfléchir à la sauvegarde, parce qu'on sent, souvent, quand on parle de patrimoine vivant, il y a quand même une petite mort sociale quelque part. C'est que
en tout cas, une crainte, j'imagine.
La pratique est fragilisée, il y a des menaces quand même qui traînent un peu. Alors, ça peut être sur le long terme, mais. Et donc, ça pourrait complètement. Après, si les gens se mobilisent, eh ben, on peut complètement lancer une démarche. Et par exemple, on avait rencontré la galette saucisse donc, sur le marché à Rennes ou même au stade et autres. Et eux n'avaient pas forcément souhaité rentrer dans une logique de reconnaissance patrimoniale. Donc dans ce cas-là, on n'insiste pas, on les laisse. Voilà, sa vie, c'est que ça n'a pas besoin. Voilà.
Alors on disait que les craqueliniers, ils n'ont pas eu envie, ils ont eu envie de rester au niveau national. Il y en a qui ont envie d'aller plus loin et ça a été le cas de personnes qui aiment le festos. Et voilà, vous avez sûrement entendu parler de l'inscription du festos à l'UNESCO en 2012. Et voilà, on va commencer peut-être en regardant juste un petit sujet de France 3 Bretagne. Peut-être que tu peux nous rappeler le contexte.
Oui, mercredi 5 décembre 2012. Donc là, on est au siège de l'UNESCO à Paris. Puisqu'en fait, chaque année, en décembre, l'UNESCO se réunit pour valider les candidatures qu'elle a eues en termes de patrimoine vivant. Et cette année-là, c'était la candidature du Fesnoz. Et là, le Fesnoz vient d'être inscrit. Et donc, vous voyez trois chanteurs, danseurs. Donc, tout à gauche, Charles Quimbert, Ronan Guéblaise au milieu et Vincent Morel tout à droite, qui ont improvisé entre les différents représentants du monde à l'UNESCO une petite danse pour célébrer l'inscription. Et on va mettre du son, ça va être mieux. Non, il faut que tu sortes du PowerPoint. En fait. Il faut que tu le. Non. Vas-y. Là, et ferme cette fenêtre-là, parce que tu sais, c'est. Ferme cette fenêtre-là. Ferme-la.
Oh merde.
Non, t'inquiète. Et là, voilà. Là, ça y est. Okay. Donc, tu peux remettre au début.
Puis je vous mets en grand.
En grand. Et après le son.
Et normalement, le son, on va voir si ça marche.
Une petite danse s'improvise au siège de l'UNESCO cet après-midi. Un peu interloqués, des représentants venus du monde entier plongent l'espace d'un instant dans la culture bretonne. Le Fesnoz vient tout juste d'être inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité.
C'est une très belle journée pour tous les organisateurs de Fesnoz, parce que la plupart des Fesnoz sont organisés par des bénévoles d'associations locales. Donc c'est une masse de manifestations très importante qui repose à 90%, je n'ai pas de chiffre exact, mais sur du bénévolat. Et je pense que voilà, on peut dédier ce qui est une victoire, parce que cette reconnaissance est une victoire pour toute la culture bretonne. On peut leur dédier là, à tous ces gens qui donnent du temps et de l'énergie pour qu'on puisse s'amuser.
Pendant 3 ans, l'association de collecte du patrimoine oral breton d'Astume a piloté le dossier de candidature du Fesnoz auprès de l'UNESCO. Même si cette tradition n'est pas menacée, un plan de sauvegarde a été élaboré, encourageant les thèses de recherche sur le Fesnoz, l'intervention d'artistes en milieu scolaire ou encore la création d'un observatoire permanent du Fesnoz, d'où cette reconnaissance internationale des fêtes bretonnes.
C'est à la fois une grande joie et une grande fierté pour nos amis bretons en particulier, mais pour tous les Français, de voir ces traditions inscrites désormais dans le patrimoine de toute l'humanité et de l'ensemble des traditions.
Et l'association d'Astume ne compte pas s'arrêter là. Sa prochaine ambition est de faire reconnaître par l'UNESCO le chant et les sports traditionnels bretons.
Je suis un peu lent parce que j'ai une énorme tendinite. Hop, je souffre martyr.
Voilà. Voilà. Tac.
Julie.
Oui.
Dis-moi. Comment, en fait, pourquoi ils ont eu envie d'inscrire ce Fesnoz qui pourtant n'avait peut-être pas besoin d'une inscription? Pourquoi il a fallu l'inscrire au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO?
Alors déjà, c'est assez sympa de revoir ces images. En fait, c'était pas le Fesnoz au début qui était. Le Fesnoz est arrivé un peu après. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Charles Quimbert, qu'on voit sur la vidéo, qui était directeur d'Astume à l'époque, a entendu parler de la convention de l'UNESCO justement sur le patrimoine vivant. Et pour reprendre ses termes, il a dit « Oh là, mais là, il y a un texte au niveau international qui a enfin compris ce qu'on faisait ». Parce que évidemment, vous aurez compris, on parle de 2003, mais le patrimoine immatériel, il existait avant, on ne le nommait pas comme ça, le patrimoine vivant. Mais il y avait plein d'associations, il y avait plein de personnes, d'acteurs qui le faisaient vivre déjà au quotidien. Et là, il s'est dit, mais on a un texte international qui parle de nous, entre guillemets, qui parle de nous, c'est nous les communautés. Et donc, c'est là où d'Astume a commencé à mettre en place toute une démarche avec majoritairement des acteurs associatifs en Bretagne. Et ils se sont dit, mais il faut qu'on fasse reconnaître en fait ce patrimoine immatériel. Et ça leur permettait de renouveler les discours. Vous imaginez, quand vous arrivez devant des élus pour demander des subventions ou autres, vous dites, quand même, ce qu'on fait, c'est l'UNESCO, c'est du patrimoine immatériel, c'est la diversité culturelle. Et donc, en fait, l'enjeu, il était là au début. Et c'est ça qui est intéressant dans cette candidature, c'est qu'il y avait en premier une volonté d'être reconnu dans ce qu'ils faisaient, en fait, tous ces acteurs associatifs, tous ces organisateurs de Fesnoz qu'évoque Ronan. L'enjeu, il était là. Sauf qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte que faut illustrer un peu pour rendre ça concret, pour que les gens se disent « le Fesnoz fait partie de ce patrimoine vivant ». Et c'est à partir de là que l'idée d'une candidature a émergé en se disant finalement, le Fesnoz, c'est vivant et c'est un contenant aussi. Dedans, il y a la danse, il y a le chant, il y a le chant en breton, il y a le lieu en lui-même, il y a la convivialité avec la buvette, etc., etc. Et donc, c'est comme ça qu'est partie la convention.
Mais il n'y a pas eu d'inventaire en soi du Fesnoz. Il y a plein de questions.
Vous n'aviez peut-être pas terminé. Peut-être vous
laissez. On peut,
pas de problème. Ouais.
Moi, je ne connais pas ce document-là. Est-ce que, à tout hasard, parce que vous évoquiez ça quand vous avez essayé de définir au départ, en préalable, la question du patrimoine immatériel, vivant, etc., la question de l'ouverture des choses en mouvement, comme on l'a vu, l'illustration assez éloquente du Fest Days dans la piscine de Carré, là. Est-ce qu'il y a une mention ou un article qui précise que, justement, ça doit être des choses vivantes et des choses ouvertes? Parce que souvent, le patrimoine, c'est aussi, ça peut être quelque chose d'assez identitaire, ça peut être une sorte de repli identitaire. Donc, est-ce que l'UNESCO, par exemple, parce que vous avez une info là-dessus, ce que je découvre, moi, l'UNESCO insiste sur le fait qu'il faut que ce soit ouvert Et on peut imaginer que, par exemple, des DJ Zebra qui sont venus à Carhaix, qui travaillent aux Vieilles Charrues avec les troupes locales de Fesnos, de danse, etc. C'est dans cet esprit-là aussi.
Oui.
Est-ce que vous avez des éléments là-dessus?
Oui, alors l'UNESCO, elle ne va pas le dire directement comme ça, mais en fait, elle l'illustre de plein de manières différentes. Cette recréation permanente, elle invite forcément à l'influence d'autres esthétiques musicales ou d'autres manières de faire, d'autres éléments de d'autres cultures. Donc il y a cet aspect-là. Et puis, il y a aussi que le patrimoine vivant est considéré creuset de la diversité culturelle. Et si on se souvient, l'UNESCO a été créée en 1945 avec cette volonté de la paix dans l'esprit des hommes et des femmes, hein, pour reprendre leur objectif. Et ça passe à travers la culture, l'éducation, le patrimoine, les sciences. Et c'est comprendre son voisin et se dire, bah, tiens, nous, on a le Fesnos, et à côté, eh ben, ils ont telle autre danse traditionnelle. Aucune hiérarchie entre les cultures, mais juste tout ça, en fait, illustre la diversité culturelle. Et l'objectif de l'UNESCO, c'est de lutter contre l'uniformisation des cultures, en fait. L'UNESCO a des chantiers très, très grands comme ça, hein, c'est au niveau international. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, ouais. Et complètement, ouais. Et il y a un autre élément très important sur cette question-là, c'est que est patrimoine immatériel tout ce qui correspond, qui rentre dans le cadre de la Déclaration universelle des droits humains. Et par exemple, on a eu des cas de carnaval en Belgique qui ont été retirés parce que il y a eu des chars jugés antisémites. Et donc l'UNESCO a jugé que ce patrimoine immatériel ne rentrait plus dans le cadre de la tolérance, du respect des cultures et autres. Et donc ça a été retiré de la liste. Alors que c'est encore vivant et que ça correspond à la définition. Mais ils n'ont pas respecté cette ouverture-là et donc du coup, ils ont été enlevés. Ouais.
Bon, après, il y a Goutal qui s'est un peu foutu de nous.
C'était l'occasion.
Et le dialogue, le Fesnos, patrimoine immatériel de l'humanité, moi je veux bien, mais lequel? Parce que ceux du pays Pline ont quand même une autre gueule que ceux du pays Ficelle, etc. Bah, vous le lisez. Donc c'est vrai que les caricaturistes, les dessinateurs se sont bien amusés avec...
Oui, et alors derrière la blague, il a raison, c'est qu'a été inscrit le Fesnos en tant qu'événement festif, mais en fait il y a des Fesnos et dans le dossier de candidature à chaque fois il a vraiment été mis un point d'honneur à faire attention à ne pas choisir un type de Fesnos parmi d'autres, mais à essayer d'avoir la définition la plus englobante possible pour que tous les Fesnos s'y retrouvent en fait, et FSD.
Mais là, justement, on se demandait un peu à quoi ça sert. Tout à l'heure, pour les craquelignés, tu disais un petit peu, parfois, quand on demande à ce qu'un patrimoine culturel et matériel soit inscrit, c'est aussi parce qu'on le sent fragile, on s'inquiète un petit peu pour lui. Est-ce que ça a été le cas pour le Fesnos?
Alors oui, bah, le Fesnos, on l'a vu sur... déjà, c'est ce principe de reconnaissance d'une pratique culturelle de personnes pour qui c'est important, pour qui c'est constitutif de leur identité. Il y a des personnes qui vont au Fesnos tous les week-ends, qui sont prêts à faire des kilomètres. Ça les définit en termes de relations familiales, amicales. Enfin, vraiment, ça s'inscrit dans leur quotidien. Donc ça, c'est toujours le premier élément, là, cette dimension sociale qui est indispensable. Et puis sinon, bah, de manière un peu joueuse, je pourrais dire que ça n'a rien changé, l'inscription du Fesnos. Hein. Les Fesnos continuent de s'organiser. Si personne ne vient, vous avez un bouillon financier, vous n'allez pas avoir de subvention parce que vous êtes inscrit à l'UNESCO pour vous aider à sortir. Donc là-dessus, ça n'a rien changé. Par contre, ça n'a rien changé non plus sur le Fesnos en lui-même. C'est-à-dire que ça ne l'a pas figé. À l'époque, on entendait souvent des craintes de dire bah oui, mais du coup, ça va être ce Fesnos-là à l'UNESCO, ça va figer. On va avoir des inspecteurs de l'UNESCO qui vont débarquer, qui vont contrôler si on fait bien les choses. Il y avait eu un excellent sketch aussi là-dessus. De Laure Join qui débarquait en inspecteur de l'UNESCO, mais qui en tout cas était le reflet de vraies craintes. On a vu dans les faits, ça fait plus de 10 ans maintenant, que ça n'a rien changé. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que ça a permis de structurer un peu les choses en matière de patrimoine vivant. Par exemple, TAMCRES, donc qui est l'association de l'agenda des Festounos, a été créée en 2001 et jusqu'en 2012 travaillait juste avec des bénévoles. Et en 2012, ils ont pu avoir, dans le cadre de cette candidature, un financement pour avoir un salarié permanent et se développer en tant qu'observatoire régional du Fesnos et autres. Il y a eu aussi, ça a été inscrit dans la politique culturelle de la région, le patrimoine vivant, la diversité culturelle, ce qui est quand même pas rien en termes de référence. Et puis on l'évoquait, Anna l'évoquait aussi, BCD, donc Bretagne Culture Diversité, a aussi été créé dans le prolongement de cette candidature avec une mission consacrée au patrimoine immatériel pour faire vivre et pour accompagner les communautés sur ce patrimoine. Donc le FESNO, c'est un peu finalement la figure de vitrine qu'on a mis en avant en disant mais en fait il y a encore plein de choses derrière et maintenant il faut travailler sur tout ce qu'il y a derrière en plus de continuer à travailler sur le FESNOS.
Et justement tu disais que ça n'avait pas modifié finalement le FESNOS et en même temps ce FESNOS il a été fragilisé notamment par le Covid.
Ah bah oui, vous avez
mais en même temps il a réussi à exister d'une certaine façon.
Mais c'est ça qui est génial, la créativité humaine que valorise aussi l'UNESCO. Il est que là pour le coup, vous avez l'image en haut à droite. Hein, voilà les fest-noz du confinement. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, mais au bout d'un moment, les gens ont eu besoin de faire la fête. On a besoin de se retrouver, de faire collectif et de faire corps comme ça. Et donc du coup, pendant le Covid, le confinement, tout s'est arrêté. Il n'y avait plus aucun fest-noz. Mais comme il n'y avait plus de carnaval, d'événements festifs, c'était même compliqué de manger ensemble et de se voir. Donc le fest-noz a été à l'arrêt complètement. Mais c'est là où c'est génial de voir que on invente des choses. On va s'adapter au contexte, on va s'adapter au temps et à l'époque. Et donc, fest-noz du confinement, alors on pourrait dire que ce n'est pas satisfaisant, mais ça donne quand même un peu encore le lien. On sait qu'il y a eu des fest-noz clandestins, on sait qu'il y a eu des livraisons de gavottes à domicile avec des masques. Enfin, voilà. Les gens, je trouve, ont eu plein d'idées. Et on voit que c'est vraiment important pour eux, qu'il y avait limite un vrai besoin. On a besoin de notre fest-noz. Et on voit bien l'image. Hein, le fest-noz est allé complètement à l'encontre des gestes barrières.
Mais justement, je revenais sur un petit chiffre. Là, c'est les chiffres 2023 qui viennent juste d'être publiés par Tom Craze. En gros, ils ont compté plus de 1000 fest-noz en 2023 avec les champions. Hein, c'est les Morbihanais. J'allais dire que c'est les Finistères.
Elle est finistérienne.
Non, moi, je suis finistérienne. Donc, c'est des Morbihanais. Mais c'est juste... il y a des... En fait, Tom Craze, effectivement, fait un grand nombre de diagnostics aujourd'hui sur le fest-noz. Et c'était sur ces chiffres-là qu'on voulait revenir. Et puis, Tom Craze aussi plutôt une autre association s'est intéressée aussi, et vous en avez sûrement entendu parler dans la presse, et nous, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, notamment nous deux au sein de BCD, c'est la place des femmes dans le fest-noz, et on verra que ça a un lien avec le patrimoine culturel immatériel. Qu'est-ce qu'on peut en dire, en fait, Julie, si tu veux commenter un petit peu?
On disait, hein, si on reprend cette définition, c'est vivant au sens où ça s'inscrit dans un temps, dans une époque, dans une société. Et le patrimoine vivant est traversé par des problématiques, des enjeux d'aujourd'hui. Donc là, on voit un exemple, effectivement, avec la question de la place des femmes sur la scène des fest-noz.
Donc là, c'est le diagnostic de HF Plus Bretagne en 2022. Ce que je préférais sourcer.
Et oui, c'est vrai qu'on l'a évoqué, mais on ne l'a pas... Et donc, du coup, on voit que les organisateurs de fest-noz, les chanteurs, sonneurs, ont sont traversés aussi par ces enjeux qu'on va retrouver dans d'autres esthétiques musicales, dans d'autres sphères sociales, les professions. Vous l'avez vu actuellement dans l'actualité, c'est-à-dire que c'est une question aujourd'hui qu'on ne peut plus éviter et sur laquelle il faut travailler. Et en fait, ce qui est... par rapport à la définition intéressante, c'est comment voulez-vous que ça se transmette si les jeunes générations ne peuvent pas mettre ce qui les concerne, elles, les problématiques par lesquelles elles sont traversées. On évoquait tout à l'heure l'ouverture à la culture, mais c'est aussi l'ouverture aux problématiques des jeunes générations. On l'a bien vu, je reviens un petit peu en arrière, mais dans les années 90, la jeunesse est revenue au fest-noz parce qu'il y avait une esthétique rock qui arrivait sur les scènes de fest-noz. Elle s'y est retrouvée musicalement et elle a réinvesti les fest-noz, alors que dans les années 80, il y avait un petit creux de la vague. Là, c'est pareil. Voilà, il y a des jeunes qui se posent des questions, et pas que, évidemment. Hein, ce ne sont pas que des questions consacrées à la nouvelle génération. fédération. Mais l'enjeu, il est là, en fait. C'est que pour que la transmission, elle fonctionne, il faut que les nouvelles générations puissent y mettre leurs pattes, leurs problématiques, leur manière de voir. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas être dans la logique de « on a toujours fait comme ça, on ne va pas changer aujourd'hui ». Si vous voulez ne pas changer, d'accord, mais il ne faudra pas s'étonner si après, il y a un problème dans la transmission, en fait, parce que les jeunes ne vont pas s'y retrouver.
Et d'ailleurs, je conclue juste... Oui.
Pardon. Et que, au niveau de la scène, il y a quand même, il y a plus de bagades, si vous voulez, qui jouent, enfin, d'hommes que de femmes, qui sont plutôt dans les cercles celtiques. Donc ça joue aussi peut-être par rapport à la fréquentation. Je pense qu'on parlait de ça, qu'on parlait de la scène, de la fréquentation de la scène, de ceux des joueurs et des.
Oui, mais voilà. en général, les bagades ne sont pas vraiment sur les scènes des fest-noz, c'est encore différent. On parlait soit des groupes qui sont constitués d'hommes et de femmes, ou alors seulement d'hommes, ou des chanteurs, des chanteuses, des sonneurs, voilà. Après, c'est un. Enfin, là, pour le coup, Tom Craze a rejoint, en fait, les premières à avoir fait un réel diagnostic sur la place des femmes dans les fest-noz, c'était l'association féministe HF plus Bretagne. Et là, pour le coup, comme c'est devenu quelque chose qui est devenu important, Tom Craze a proposé des chiffres là tout récemment, je te laisserai compléter après, mais quand même 32% des fest-noz sont exclusivement masculins, il n'y a que des hommes sur scène, ça fait beaucoup.
Je suis de Quimper et en fait on a le festival de Cornouailles et on a donc une disparité du fait qu'il y avait la séparation entre les bagades composées d'hommes et les cercles qui étaient composés et de femmes et d'hommes. Donc en fait c'est pour ça que peut-être que ça s'est un peu pérennisé, mais c'est peut-être en train de changer, mais il n'y a rien d'exceptionnel finalement de voir ça par rapport à l'histoire en elle-même de du festival. Enfin voilà.
Alors, oui, pas de problème, hein, de toute
non,
façon.
Non, mais effectivement, la répartition genrée de les femmes, quand elles sont sur scène de fest-noz, elles vont plus souvent chanter que sonner biniou, bombarde et autres. Tout ça, en fait, on se rend compte que c'est structurel. C'est-à-dire que le fest-noz n'est pas la seule esthétique musicale à être traversée par cette question-là. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une question qu'on ne peut plus mettre sous le tapis. Donc oui, ça s'inscrit dans une histoire, on comprend la répartition genrée des choses. Mais aujourd'hui... Voilà, comment on accompagne ce changement ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça réponde un peu plus aux enjeux contemporains, quoi ? Mais effectivement, il y a un héritage à détricoter petit à petit, à repenser en tout cas.
Peut-être pour conclure cette rencontre, est-ce que vous aimeriez, vous, est-ce qu'il y aurait des éléments qui vivent autour de vous que vous souhaiteriez inscrire au patrimoine culturel immatériel ? C'est-à-dire, on a parlé de la galette saucisse tout à l'heure, bon, tu disais que finalement les personnes qui en font, qui en mangent, etc., ne sentent pas ce besoin, mais est-ce que vous auriez des idées, des envies ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des formes de patrimoine que...
Ou même plus simplement, a-t-on des praticiens et des praticiennes de patrimoine vivant dans la salle ? Est-ce qu'il y a des joueurs de palais sur planche ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont au fest-noz, qui font des galettes ? C'est quoi votre patrimoine vivant à vous ? On a pris des exemples bretons, mais ça peut aussi être plein d'autres exemples.
Oui, moi je vais dans les fest-noz et puis je mange des galettes, voilà, et des craquelins. Et justement, il y a quelque chose qui m'étonnait, notamment au niveau de la nourriture, c'est que autrefois, on buvait du lait ribot, du lait ribot, mais on mangeait aussi, on trempait nos crêpes crases dans les bols de gros lait. Et là, je vois que dans plus aucune crêperie, on trouve du gros lait. C'est deux produits laitiers qui sont excellents. Et je me dis, mais pourquoi il y en a un qui a disparu, quoi ? C'est étonnant.
Qu'on voit moins, mais qui se diffuse. Qui a pour le coup, on peut en manger... Ouais. Ah, on dit que si dans la salle. Il m'a semblé entendre...
C'est quand même, moi, c'est quelque chose
qui m'amuse beaucoup, c'est que le Leribo, moi, quand j'étais petite, chez Pépé et Mémé, Mémé faisait des crêpes pour des galettes pour la semaine. Et quand on arrivait vendredi, samedi, elles étaient sèches. Et pour les, fallait pas gâcher, on les mangeait dans du Leribo. Et nous, les petits émigrés parisiens qui venaient en vacances chez Pépé et Mémé, c'était le moment difficile parce que c'était pas bon du tout, ce Leribo. Je suis toujours surprise de voir qu'aujourd'hui, le Leribo est à 3,50, voire 4 euros dans nos crêperies Malouine et que c'est très prisé par les touristes.
Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Bah, c'est bien. Bah.
Ouais. Ouais.
Alors je pense, ah ben voilà. Alors le Leribo a fait plus d'émules que les craquelins. Hein. Alors,
mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une question de goût aussi.
Ah ben voilà, ah bah. Craquelin avec Leribo, ah bah voilà. Et puis tout le monde est content.
Ouais.
Oui.
On sent que le souvenir est encore marqué.
Alors, c'est vrai que Julie l'a expliqué. J'espère que vous avez mieux compris ce qu'était le patrimoine culturel immatériel. Mais en tout cas, il y a une chose qu'on a bien intégrée et qui nous semble vraiment primordiale, c'est que c'est le patrimoine culturel immatériel. C'est quelque chose qui se renouvelle, qui se partage, qui est toujours vivant. Et pour le coup, il y a quelqu'un qui a accepté de venir ce soir pour chanter et danser avec nous, pour ceux qui ont envie. Voilà.